Super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordi.
Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro.
Génial.
Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison.
Top Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile.
L'XPS 12, PC et tablette.
Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr?
Jusqu'à 100 euros de réduction sur une sélection de PC. T'en prendras aussi un portable mère?
Ou pas.
Voir modalité sur Dell.fr.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce n'est pas un historien, mais un philosophe que Franck Ferrand a choisi d'inviter aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Un philosophe, oui, vous avez raison, mais qui est aussi un passeur de savoir et qui, en l'occurrence, a fait œuvre de biographe. Il s'agit de Michel Onfray. Alors, vous vous souvenez de la polémique lancée par Onfray il y a quelque temps autour de la personnalité, de l'apport réel du père de la psychanalyse, Freud. Eh bien, aujourd'hui, c'est un autre monstre sacré de la modernité qui va être la victime, si je puis dire, de notre empêcheur. Pêcheur de tourner rond, c'est le marquis de Sade.
Alors prévenez-moi Franck, faut-il mettre quand même dans le coin de l'écran le macaron interdit aux moins de 16 ans?
Non, rassurez-vous bon. Julia, on va essayer de rester audible. Je fais confiance à Michel Onfray pour ne pas entrer trop dans les détails salaces. Un petit peu tout de même, il faut ce qu'il faut.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
En 10 ans de radio et bien plus de 1000 émissions, je n'ai jamais traité de la vie du marquis de Sade, donatien pour les intimes, né en 1740 et qui est mort avec l'Empire, si je puis dire, en 1814. Il y a une raison à cela, c'est que tout ce qui a pu paraître sur le sujet, des biographies les mieux renseignées aux essais les plus pointus, des travaux d'un Maurice Levers par exemple, aux considérations d'un Philippe Solers, tout ce que j'avais pu lire et entendre me laissait l'impression d'un décalage entre ce qu'on peut savoir de la vie et de la personnalité du divin marquis, pour reprendre le surnom consacré, et ce que pouvaient en dire nos 20e et 21e siècles habitués à renchérir sur les mythes. Voici notamment ce qu'on peut lire à propos de l'œuvre de Sade sur une encyclopédie en ligne. Partiellement inédite jusqu'au XXe siècle, notamment les 120 journées de Sodome, publiées pour la première fois en 1904, entourée de silences prudents, d'anathèmes et de procès pour outrage aux bonnes mœurs, dont le dernier date de 1957, l'œuvre de Sade n'est guère reconnue avant Apollinaire et les surréalistes, dont Breton, qui saluent la revendication d'une liberté absolue face à la contrainte sociale, à la fois morale, religieuse et langagière. Et je note cette phrase à la fin de la notice consacrée donc à l'œuvre de Sade. L'ironie aristocratique de Sade oblige à une remise en cause idéologique, ce que la notion de sadisme, définie d'un point de vue psychanalytique comme une perversion, a trop longtemps permis d'esquiver. Voilà ce qu'on disait. Et puis voici que Michel Onfray, le philosophe pédagogue, le passeur d'idées, fondateur de l'Université populaire de Caen, voici que Michel Onfray, dans deux conférences éditées sur CD, fait enfin entendre un autre son. Selon lui, le mythe sadien mériterait d'être revu, révisé même, et tout ce que l'on raconte habituellement. Quand je dis tout ce qu'on raconte, aussi bien sur le génie de Sade, sur les différences entre sa vie et ses écrits, sur son rôle dans la Révolution, son avant-gardisme, son féminisme même, son approche quasi scientifique de domaines dont il aurait été le premier explorateur, tout cela, selon notre philosophe, relèverait de la légende davantage que de la réalité. C'est donc un entretien dessillant avec Michel Onfray que je vous propose cet après-midi. Disons-le, l'ambition de cette émission n'est pas de déboulonner une statue, plutôt d'envisager l'homme derrière la statue.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec une émission consacrée cet après-midi sur Europe 1 au marquis de Sade, et pour en parler, cher Franck, vous recevrez le philosophe et écrivain Michel Onfray.
Bonjour Michel Onfray.
Bonjour.
Vous n'avez pas peur, on le sait, cela dit, on n'a pas besoin de faire votre réputation. Vous attaquez parfois un certain nombre de monstres sacrés. Le moins qu'on puisse dire est que celui-ci est particulièrement révéré depuis, on va dire, une cinquantaine d'années à peu près. De quand peut-on dater la construction de la légende sadienne ?
C'est très précisément Apollinaire, c'est-à-dire dans les premières années du XXe siècle, quand cette notice que vous signalez tout à l'heure nous dit c'est pas avant, très tardivement, etc. Non, c'est très exactement le XXe siècle tout entier, dès son début, qui nous fait savoir que ce personnage est un génie féministe, solaire, oui, mais en même temps révolutionnaire, démocrate, parce qu'il aime la liberté, et bien évidemment il est emprisonné sous trois régimes, d'abord la monarchie, ensuite la révolution, et puis ensuite l'Empire, et on nous dit ah, c'est bien la preuve de sa grandeur libertaire, etc. Et moi, j'y ai souscrit aussi quand j'étais adolescent, enfin quand j'entre à l'université à 17 ans.
On peut dire
ans,
que d'une façon générale, tout le monde y a un jour ou l'autre souscrit, plus ou moins, parce que c'est la doxa, c'est l'opinion généralement admise, en vérité.
Non, parce qu'en fait, il y a des gens qu'on n'a pas voulu entendre et qui pourtant ont dit des choses justes. Je songe à Camus, par exemple, dans L'Homme révolté, la chose est clairement dite pour qui veut bien l'entendre. Je songe à Hannah Arendt, qui nous le fait savoir également dans une note où elle nous dit que tous les intellectuels parisiens souscrivent étonnamment à cette légende de Sade libertaire. On peut trouver également un très beau texte de Raymond Queneau, qui très vite et très tôt nous dit ces choses-là. Il y a également quelques considérations, enfin on ne peut pas les connaître puisqu'il s'agit du journal de Léris et que le journal était à cette époque-là inédit. Ceci dit, quelques vraies consciences critiques qui aimaient la liberté plutôt que la légende nous ont dit très tôt que ce personnage-là n'était pas défendable comme il l'était défendu.
Avant d'aborder l'œuvre de Sade, avant d'essayer d'analyser ce qu'il y a chez lui, alors de sadique ou non sadique, de révolutionnaire ou non révolutionnaire, de visionnaire ou de pas visionnaire du tout, allez-vous nous dire. J'aimerais qu'on revienne sur sa biographie, bien entendu, sur le personnage lui-même et sur toute la légende qu'on a tissée sur lui. Et ça, je dirais que c'est à la portée de tout le monde, mais vous verrez tout à l'heure que même les notions, même les concepts qu'on va aborder sont assez simples, il suffit de les prendre de la bonne façon. Vous êtes le maître de la question, évidemment, Michel Onfray. Alors, avant toute chose, qui est ce monsieur de Sade? À quel milieu appartient-il? Tout à l'heure, je parlerai de son épouse, de Pélagie, je raconterai un peu son terrible parcours. Citons-le, pour commencer.
Oui, c'est une grande famille de la noblesse provençale. On dit de Sade que ça veut dire d'ailleurs douceur. La preuve que quand les psychanalystes nous disent qu'on est déterminé par son nom propre, ils disent des sottises. Et donc, un personnage dont on dit aussi qu'il aurait été abusé sexuellement dans son enfance. Vous connaissez la légende, ce qui fait qu'on nous dit aujourd'hui que les abuseurs ont été désabusés et que...
Ça peut arriver.
Bien sûr, mais sauf qu'il y a plein de contre-exemples aussi. Il y a plein de gens qui ont été abusés qui ne deviennent pas des abuseurs. Donc, ça ne fait pas une loi. Ça permet de penser effectivement qu'il y a effectivement des gens qui n'ont pas dépassé cette logique-là, mais que d'autres l'ont tout de même dépassé. Donc c'est pas forcément une loi scientifique, une vérité, je dirais. Et donc c'est un personnage qui, avant la Révolution française, vit comme un monarchiste, c'est-à-dire comme quelqu'un qui défend le roi, qui défend en même temps la richesse, l'argent, la propriété, la noblesse, l'aristocratie, et qui est un grand libertin, un grand seigneur méchant homme. C'est-à-dire à l'époque...
Un militaire aussi, il faut pas oublier.
Oui. Mais à l'époque, on viole, on prend les femmes qui nous plaisent, elles sont là, on les engrosse et puis l'affaire est réglée, quoi. C'est pas un problème.
Il appartient, il faut dire ça, parce que c'est une image qu'on a fini par laisser volontairement sous le boisseau, à mon avis. Il appartient à ce qu'on peut appeler la grande aristocratie. Il est même allié à des princes du sang, puisqu'il est, il est directement, il est proche des Condés, en fait. Donc on n'est pas du tout dans la petite, c'est pas le hobereau qu'on a voulu parfois nous présenter. Non, c'est de la grande noblesse de cour en fait.
Absolument.
Son père a été ambassadeur.
Oui, et c'est un grand féodal. Moi je pense qu'il l'est resté, contrairement à la mythologie qui nous présente cet individu-là comme un révolutionnaire par-delà les révolutions, quelles que soient les révolutions. C'est un féodal qui l'est resté jusqu'à la fin de son existence. Et c'est donc quelqu'un qui abuse sexuellement d'un nombre considérable de femmes. Les servantes sont faites pour ça. Et il y a deux ou trois affaires vraiment qui lui valent le tribunal parce que il a vraiment exagéré. C'est-à-dire, c'est pas qu'à l'époque on poursuive ces gens-là. C'est-à-dire, quand un marquis abuse d'une servante, ça se termine jamais au tribunal. C'est-à-dire, si vraiment ça s'est trouvé devant la justice, c'est parce que vraiment il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup d'affaires, et puis parce qu'il y avait, pour le coup, ça se disait pas comme ça à l'époque, mais du sadisme,
de
la violence.
Oui. Évidemment. Et avant que ça ne tombe dans le domaine de la justice, ça a relevé des affaires de la police. On va d'ailleurs y venir dans un instant. La première des grandes affaires dans laquelle tombe, si je puis dire, Sade, c'est très tôt dans sa vie. Parce que ça aussi, on a tendance à l'oublier. On pense que tout ça vient sur le tard. Pas du tout. Il a démarré très fort, si je puis dire. Nous y venons dans un instant. En votre compagnie, Michel Onfray.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et pour parler du Marquis de Sade, rendez-vous avec Franck Ferrand et avec son invité du jour, Michel Onfray.
Ce que vous nous dites, Michel Onfray, et je sens que nous allons encore faire frémir le standard, c'est qu'il y a chez Monsieur de Sade, chez le marquis, le divin marquis, comme on l'a surnommé, il y a tout du délinquant sexuel, en vérité.
Absolument, c'est ce que je défends contre toute la légende. La légende nous dit, c'est parce que justement il a été un gentil garçon à la maison et qu'il était emprisonné et qu'il était donc dispensé de sexualité, qu'il a sublimé sa sexualité en écrivant des romans qui n'avaient rien à voir avec sa pratique. C'est la vieille histoire de Freud, la sublimation, c'est-à-dire ce que je fais dans mes livres, sur le papier.
C'est tout ce que je m'interdis dans la vie.
Voilà. Et donc, plus c'était excessif sur le papier, plus ça montrait la sainteté de l'homme dans la réalité. J'ai dit, mais comment des gens ont-ils pu dire ce genre de choses alors que des biographes ont clairement raconté ce qu'étaient les faits qu'on pouvait reprocher à Sade. Et il y en a de nombreux.
Alors le premier, il éclate en octobre 1765. C'est un rapport de police qui arrive jusque sur le bureau du roi. Le lieutenant général de police en personne, le comte de Sartine, s'est occupé de tout ça de très près. Et alors, on parle d'une nuit terrible au cours de laquelle ont été pratiquées flagellations, blasphèmes en tout genre, actes sacrilèges, pornographie exacerbée. Évidemment, tout ça vaut à Sade d'être enfermé. Il prend la direction de Vincennes, hein, il va bientôt connaître la forteresse de Vincennes. Ça n'est que la première d'une série d'affaires.
Absolument.
En vérité.
Et on peut imaginer que si effectivement cette affaire arrive sur le bureau de la police, et qu'il y en a eu d'autres, et qu'il y a eu des plaintes, et que vraiment il a exagéré pour que franchement on lui interdise ce que s'autorisaient pratiquement tous les nobles à cette époque-là. Vraiment, c'est qu'il en aura fallu beaucoup pour qu'on se souvienne de quelques-unes.
C'est très intéressant, on est dans la toute dernière partie du règne de Louis XV, hein. On est juste au moment, juste après la mort de la reine Marie-Leginska, donc dans cette période assez ténébreuse qui va faire évidemment la toile de fond des liaisons dangereuses de Coderlos de la Clos. Hein. On est exactement dans cet esprit-là. Un autre grand scandale, parce qu'il y en a eu quelques-uns, voilà. entre. Ça, c'est le 3 avril 1768, c'est l'affaire Rosskeller.
Voilà.
Alors là, même chose, ça va assez loin. Et d'ailleurs, la plaignante, Rosskeller, qui est une petite servante au départ, va obtenir une très grosse indemnité, 2400 livres, c'est colossal. Et ça laisse envisager l'ampleur du délit aux yeux des autorités de l'époque.
Oui, c'est une jeune fille qu'il récupère dans la rue. Elle est au chômage, elle est miséreuse, elle est pauvre, et il lui propose de l'argent pour faire des ménages dans un château. Il l'emmène dans sa voiture et il fait semblant de dormir pendant le voyage. Et quand elle arrive dans sa maison, effectivement, il la torture, il la violente, il la brutalise, il la menace de mort, il la taillade. Et puis, effectivement, il lui fait savoir qu'il va la tuer. Donc, quand des gens nous disent, mais finalement, tout ça, elle était consentante, en fait, la vieille logique. Des gens qui nous disent mais elle était consentante, elle était d'accord, c'était une prostituée, quel mal y a-t-il à faire avec une prostituée, ce pourquoi elle est faite, etc. On trouve quand même tout ça chez les intellectuels qui défendent ça et qui nous disent.
C'est assez étonnant.
C'est sidérant.
Ce sont les mêmes qui, par ailleurs, peuvent se montrer pour le moins prudes pour des affaires beaucoup plus récentes.
C'est toute la gauche bien pensante qui s'en vient nous expliquer qu'après tout, ça n'est jamais qu'une prostituée, qu'elle était faite pour ça. C'est sidérant, quoi, de voir une espèce de hiatus entre des gens qui professent une idéologie de la compassion universelle au nom des droits de l'homme, et qui en même temps nous disent il faut défendre le soldat Assad et accabler donc la victime en disant elle l'a bien voulu, elle l'a bien cherché, etc. Elle réussit à s'enfuir, mais on peut imaginer qu'il aurait pu vraiment la tuer. D'ailleurs, on oublie toujours que dans son jardin, Assad, on retrouve des ossements humains. Et il dit oui, mais c'est pour plaisanter, c'est une amie qui m'avait
amené ça. Canular,
ouais. C'est un canular. Bon, ouais. Mais enfin, tout de même, on peut imaginer que certains probablement n'auront pas laissé leur nom dans l'histoire parce qu'ils y auront laissé leur vie et que on aura enterré le cadavre au fond du jardin.
On ne va pas pouvoir refaire toute la chronique judiciaire de Sade. Et tout à l'heure, dans le récit, je vais vous raconter à quel point sa femme a passé sa vie, littéralement, à essayer de le sauver,
bien
de
sûr.
Le tirer de mauvais pas, avec sa propre mère, hein, du reste, la présidente de Montreuil, qui a tout fait, qui a porté son gendre à bout de bras, même si elle ne l'appréciait pas du tout. Néanmoins, il faut évoquer l'affaire de Marseille, parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette affaire-là, cette fois, il y a 5 Marseillaises hein, qui sont impliquées dans l'affaire et qui vont, elles aussi, porter plainte. Là encore, je vous passe tout la liste. Nous sommes à une heure de grande écoute. Je vais vous faire grâce de la liste de tout ce qui peut être, de tout ce qui sera reproché au marquis de Sade. Mais parmi ce qu'on lui reproche, il y a le fait d'avoir utilisé de l'aphrodisiaque et d'avoir donné des pilules de cantharide à ces jeunes femmes, ce qui aurait pu passer pour de l'empoisonnement. Et alors là, on est aux limites de la sorcellerie. C'est intéressant parce que il y a quand même une dimension sulfureuse qui s'attache, une dimension quasiment anciennement sulfureuse qui s'attache à Sade dans cette affaire de Marseille.
Oui, alors les cantharides, ce sont des mouches séchées qui passent pour être aphrodisiaques, mais qui, mal dosées, peuvent être dangereuses, voire mortelles. Donc il y a aussi effectivement une espèce de tentative d'empoisonnement. On ne peut pas exclure cette hypothèse-là. C'est-à-dire que si on prend les chefs d'accusation à chaque fois, vous avez des circonstances aggravantes en permanence. C'est-à-dire viol aggravé, en réunion, avec des instruments de torture, avec des fouets, avec des clous au bout des fouets.
Avec des scarifications, des meurtrissures très importantes, des blessures parfois irréparables. Enfin, il faut dire tout ça. C'est dans tous les rapports.
Oui. Alors, grosse galère, par exemple, quand elle est tailladée, et puis il verse de la cire de bougie fondue, donc brûlante, dans la plaie. Et les gens qui défendent aujourd'hui nous disent mais c'est pas vrai, c'est pas ça. Il verse un onguent simplement pour qu'elle ait moins mal.
Alors, nous allons voir à quel point l'épouse de Sade, elle n'avait vraiment pas tiré le bon numéro. Elle, la pauvre Pélagie, va passer sa vie à essayer de défendre son mari.
Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck sur Europe 1 consacré au marquis de Sade.
Donatien François de Sade a 23 ans quand il épouse Pélagie de Montreuil. Et malgré ce jeune âge, ça fait déjà des années qu'il est considéré par sa propre famille comme un débauché. Il faut raconter en deux mots ce qu'a été la jeunesse de Sade. À 5 ans, le jeune marquis a été confié, parce qu'en fait ses parents ne se sont pas occupés de lui dans son jeune âge, il a été élevé loin de ses parents. Et puis à 5 ans, on l'a confié à l'abbé de Sade, son oncle, qui était quelqu'un de très bizarre, qui vivait avec une maîtresse déclarée, qui aimait bien, disait-on, les petits garçons, bref, qui était d'une moralité plus que douteuse, ce qui fait que le père de Sade l'a quand même retiré à son frère et finalement, âgé de 10 ans, Sade a été envoyé à Louis le Grand. À 14 ans, il part pour l'armée. Il va guerroyer pendant toute la guerre de 7 ans. On peut imaginer qu'il mène à ce moment-là une véritable vie de débauche. Et à 23 ans, son père le marie donc avec cette Pélagie, qui est une femme un peu brune, maigre, froide. Enfin bref, elle ne plaît pas du tout à Sade, qui préférait sa sœur cadette, qui était tout en rondeur et tout en blondeur. Démoralisation pour le jeune homme. Le mariage a été célébré en mai 1763 à Saint-Roch, entre parenthèses ça fait exactement 250 ans, et bien dès le mois de juin, on voit le jeune marquis louer non pas une mais plusieurs garçonnières. Il faut dire que lui était pas mal, avec son petit nez, ses yeux très bleus et ses jolis cheveux blonds cendrés. Il faisait des ravages évidemment. Et la jeune marquise, que fait-elle? Elle souffre en silence, elle attend son mari en quelque sorte, et c'est sa propre mère, la présidente de Montreuil, qui est une femme à poigne et qui elle va se plaindre de la conduite débauchée de son gendre. Patatras, le 19 octobre de cette année 1763, alors là, c'est vraiment le scandale qui éclate. Une certaine Jeanne Testard a porté plainte. Le rapport de police est accablant. On parle de flagellation, de blasphème multiple, d'actes sacrilèges, de pornographie exacerbée. Le comte de Sartine, qui est le lieutenant général de police de Louis XV, est complètement sidéré de ce qu'il lit. Et on va enfermer Donatien de Sade à Vincennes. À ce moment-là, Pélagie, elle, est enceinte. Elle pleure. Elle essaie de voir son mari. C'est délicat. Elle va obtenir quand même, grâce au soutien de sa mère, elle va obtenir l'élargissement du prisonnier qui se retrouve dans la propriété des Montreuil, en Normandie. Enfin, les jeunes époux vont pouvoir vivre plus ou moins leur lune de miel, en tout cas. Au printemps, Sade est autorisé à rentrer à Paris. Il retrouve une vie presque normale, même s'il faut quand même s'inquiéter de la proximité assez étrange de celle qu'on appelle la chanoinesse et qui est donc la sœur cadette de Pélagie. Pélagie, pendant ce temps-là, fait une fausse couche. Son mari vit, au moment de la fausse couche, il n'est même pas là, il vit avec une certaine mademoiselle Collet, qui a 18 ans, mais qui a déjà une grosse réputation derrière elle. On est là en 1764, et puis l'année suivante, il trouve une autre maîtresse, mademoiselle de Beauvoisin, qui l'emmène d'ailleurs au château de Lacoste, dans une propriété familiale, dans le Luberon. Et la courtisane se fait passer pour madame de Sade. Quand il rentre à Paris, il trouve Pélagie, toujours aussi sage. Elle est là pour le consoler d'avoir eu des déboires avec sa propre maîtresse. On pourrait presque se demander quand même si cette jeune femme n'est pas un peu idiote par moment. Elle est enceinte, Pélagie, lorsque le 24 janvier 1767, son beau-père meurt. Le comte de Sade ne va donc pas connaître l'héritier de son nom, Louis-Marie.
Louis-Marie de Sade, qui va naître le 27 août. À ce moment-là, le père, lui, est toujours dans les raies de la Beauvoisin, et c'est peu de temps après, le 3 avril 1768, qu'éclate l'affaire Rose Keller, une affaire très scandaleuse, puisque Rose Keller, qui était encore un amour de rencontre, va porter plainte elle aussi. Elle, on parle de nouveau de flagellation cruelle. Elle a été attachée sur un lit, frappée avec un canif. Enfin bref, on lui donne 2400 livres, ce qui est une grosse somme pour qu'elle se tienne tranquille. Quant à Sade, il est enfermé. Le voilà cette fois à Lyon. Alors, pour aller le rejoindre à Lyon, sa femme a besoin d'emprunter de l'argent à sa propre mère, qui refuse. Donc, elle va aller jusqu'à vendre ses bijoux. Ça, c'est la chance de Sade. Pendant toute sa vie, le 10 juin, il va bénéficier de lettres d'abolition. Il en profite pour se retirer sur les terres de la Coste, où il va vivre, on va dire, dans une sorte de ménage à trois, puisque Pélagie est accompagnée par sa sœur cadette, et que, évidemment, la sœur cadette est devenue la maîtresse attitrée de Sade. Sauf que, peu de temps après, va survenir ce qu'on appelle l'affaire de Marseille. Nouveau très gros scandale, nouvelles plaintes qui ont été portées par 5 Marseillaises. Alors elles aussi ont connu la flagellation et tout ce qu'on veut. Mais surtout, Sade leur a fait ingurgiter des dragées à la cantharide. Vous savez, une poudre faite à partir d'une mouche, enfin une chose absolument ignoble. Ça les a rendus malades et l'on va accuser Sade d'empoisonnement. Alors là, c'est beaucoup plus grave ce qui lui arrive cette fois. Évidemment, il y a un procès. La belle-mère va intervenir pour essayer d'acheter le silence et les témoignages de tous ceux qui pourraient faire du mal à son gendre. Et Sade se sort du procès presque indemne. Il a l'impression qu'il va retrouver la liberté. Sauvement, la belle-mère n'est pas idiote. Elle a écrit au roi et elle a obtenu une lettre de cachet pour protéger sa famille. Et le 1er mai 1773, on lui fait reprendre la route de Paris pour aller l'incarcérer à Vincennes. Sauf qu'il arrive. Néanmoins, en passant par Valence, il arrive à se sauver. Il va, alors je vous passe sur tous les détails de sa nouvelle fuite. Il va s'installer à Lacoste où il se cache. La belle-mère essaie de le faire surprendre par tout un escadron de police, mais grâce à la complicité de sa femme, il s'est encore échappé de la Coste. On va le voir s'enfuir en Italie. En juillet 1766, Pélagie le voit revenir à la Coste. Cette fois, il est accompagné d'un petit secrétaire. Et 6 mois plus tard, il se met en route avec son secrétaire pour Paris. À ce moment-là, il va être enfin incarcéré. Il est sous les verrous. Et il écrit depuis Vincennes à sa femme « Tu es tout ce qui me reste sur la terre, père, mère, sœur, épouse, ami, tu me tiens lieu de tout, je n'ai que toi, je t'en conjure, ne m'abandonne pas. » Vous allez dire, cette fois quand même, la marquise de Sade a compris, elle va abandonner son mari, mais pas du tout. Effectivement, elle va le soutenir, effectivement, elle va lui donner de l'argent. C'est assez incroyable, elle obtient qu'il soit blanchi. Et finalement, c'est une nouvelle lettre de cachet qui, en février 77, va définitivement mettre Sade hors circuit, si je puis dire. Il va d'ailleurs rester en prison, alors là, vraiment très longtemps, de 1777 à 1790. Et la marquise reste fidèle pendant tout ce temps-là. Elle va lui rendre visite constamment. Et le 13 juillet 1781, elle est autorisée à rencontrer son mari. Mais alors, il en profite pour la battre. Il est d'une jalousie terrible. Il lui reproche toutes sortes d'amants totalement imaginaires et même des amitiés féminines. Il faut que les gardiens s'intermettent pour essayer de la sauver. On se dit que cette fois, elle va s'en aller. Eh bien, pas du tout. Elle s'installe dans un couvent. Elle continue de suivre, de soutenir son mari jusqu'à la publication, et on a envie de dire ouf, le 22 octobre 1785, des 120 journées de Sodome. Alors là, cette fois, la marquise de Sade lit ce dont son mari est capable et d'un seul coup, elle décide de demander la séparation de biens. Ça va être une séparation définitive. Elle obtiendra beaucoup plus tard, elle obtiendra de faire placer son mari à Charenton, on est là à l'époque de l'Empire, contre une rente viagère de 5000 livres. Il lui a donné, lui, de son côté, tous ses biens et elle le fait boucler littéralement. Elle protège ses enfants, disons-le, et on peut la comprendre. Elle a 60 ans à cette époque-là. C'est devenue une vieille dame aveugle, obèse, et qui se retire sur la propriété familiale de Normandie. Thank you.
Un extrait sur Europe 1 de la sonate pour flûte et piano de Francis Poulenc. Francis Poulenc dont la musique a été utilisée pour la bande originale du film Sade, réalisé par Benoît Jacquot. C'était sorti en 2000, rappelez-vous, avec un excellent Daniel Auteuil. On espère vous faire passer une bonne après-midi à l'écoute de votre radio. A tout de suite sur Europe 1, juste après ça.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et le philosophe et écrivain Michel Onfray nous accompagne jusqu'à 14h sur Europe 1. Nous partons avec lui à la découverte du marquis de Sade, Franck.
Nous avons vu avec vous, Michel Onfray, que le marquis de Sade n'était pas du tout le gentil garçon qu'on a voulu nous faire croire. Mais vous nous dites que ça va beaucoup plus loin. En fait, il n'est rien de ce qu'on nous a dit. On nous le présente notamment comme un agent important de la Révolution et comme une sorte d'emblème révolutionnaire. Nenni, répondez-vous.
Oui, parce que quand je parlais tout à l'heure du structuralisme, c'est l'art de lire un texte indépendamment du contexte. On dit en gros, on ne veut pas savoir qui a écrit le texte, dans quelles circonstances, dans quelles occasions, pourquoi, à quelle date. On dit le texte a ses règles internes et pas besoin d'aller chercher ailleurs.
C'est l'anti-Sainte-Beuve.
Absolument, vous avez raison. Et donc, moi ce qui m'intéresse c'est l'inverse, c'est de dire qui a écrit quoi, quand, pourquoi, comment, de quelle manière. Donc,
et sous quelle influence.
Absolument. Et Sade, par exemple, entre à la section d'épique, devient révolutionnaire et s'en vient nous expliquer que la révolution c'est extraordinaire, que le peuple, c'est fantastique et qu'il souscrit absolument à tout ce qui se passe pendant la Révolution française. Et on nous dit, mais de toute façon, il a écrit un texte contre la peine de mort. Il était opposé à la peine de mort. Regardez ce texte qui s'appelle « Français, encore un effort pour être républicain » où il nous dit qu'il faut abolir la guillotine. Donc, voilà, on ne peut pas en faire un méchant garçon. Cet homme qui massacre dans ses livres, il est contre la peine de mort. Sauf qu'il écrit ce texte-là alors qu'il est emprisonné dans un endroit où, de sa fenêtre, il assiste aux exécutions capitales en permanence. Et il nous dit dans sa correspondance qu'il voit en permanence des charrettes arriver et repartir avec des hommes et des femmes enceintes aussi, décapitées avec des flots de sang. Il y a du sang partout, partout, partout. Et qu'il explique qu'effectivement, ça rend quand même abolitionniste, ce genre de spectacle-là. Quand on sait qu'on risque d'y laisser sa tête parce qu'on est, on est marquis, eh bien effectivement, on peut être abolitionniste, parce que là, pour le coup, on est dans le plaidoyer pro domo.
Finalement, si je vous suis bien, et c'est un des thèmes récurrents dans cette double conférence que vous avez, qui est éditée en CD, ça s'appelle Sade, déconstruction d'un mythe, on a l'impression que Sade n'applique pas à la société les règles qu'il s'applique à lui-même. Il y a toujours une distinction. Il n'y a rien d'universaliste chez cet homme, finalement.
Oui, mais ça, c'est un sport chez les intellectuels qui est assez répandu. C'est-à-dire, on écrit des choses, puis on pratique le contraire, ou on pratique l'inverse. C'est-à-dire que ces intellectuels qui nous disent « il y a un texte dans lequel Sade nous dit qu'il est contre la peine de mort », eh bien, ces intellectuels ne mettent pas en perspective les autres textes de Sade, où cet homme qui nous dit qu'il est contre la peine de mort défend la décapitation de Louis XVI, défend la décapitation de Marie-Antoinette, et défend la décapitation de Charlotte Corday. Pour un abolitionniste, vous me direz, ça fait quand même beaucoup. Alors, on a envie de dire, mais comment est-ce que c'est compréhensible, ça ? Voilà, trois décapitations qui sont défendues par un homme qui nous dit qu'il est contre les décapitations. On ne comprend ça que quand on met en perspective ce texte, le contexte, et qu'on comprend qu'il est contre la peine de mort quand elle risque de le concerner, lui, personnellement, mais que par ailleurs, il la défend.
Qui a fait de Sade un féministe ?
Eh bien, le premier, c'est Apollinaire.
Une fois de plus, on remonte aux légendes d'Apollinaire.
Mais je vous assure qu'il n'y en a pas un qui a inventé quoi que ce soit qui ne se soit déjà trouvé dans la préface d'Apollinaire. C'est sidérant de voir comment les intellectuels se pillent mutuellement. Personne n'a d'idée originale et surtout, personne ne travaille. Parce qu'il s'agissait de faire une chose extrêmement simple, c'était
lire. C'était seulement à propos de Sade, mais on a le même exemple dans tellement de domaines, croyez-moi.
Bien sûr. C'est-à-dire, les œuvres complètes de Sade, elles existent quand même rapidement. Dans les années 60-70, on peut accéder à la totalité de Sade, y compris la correspondance. On a les biographies de Lélie, elles font 500-600 pages. Les gens qui veulent savoir peuvent savoir sur Sade.
Il y a des historiens quand même qui ont travaillé assez en détail, qui sont allés dans la correspondance de Sade, qui ont développé tous les éléments de sa biographie. Là, vous faites plutôt le procès des intellectuels qui parlent de Sade, voilà, que des historiens qui l'ont fait revivre.
Alors les historiens, ça dépend des historiens, parce que vous avez des hagiographes, vous avez des gens qui ont vraiment fait une biographie, c'est-à-dire qui nous ont donné des faits, et qui nous ont dit voilà ce qui se passe avec Roskeller, voilà ce qui se passe à Marseille, voilà ce qui se passe pendant la Révolution française. Et heureusement que ceux-là ont fait ce travail, que j'ai pu moi m'appuyer sur ce travail-là. Mais vous avez des biographes, entre guillemets, qui sont des hagiographes. Quand Jean-Jacques Pauvert consacre 3 gros volumes à Sade, une biographie de 3 fois 500 pages, il prend les événements et il les commente à sa façon. Et on a des gens qui nous expliquent que, bon, après tout, même si Rose Keller, elle a été incisée avec un canif et qu'on y a versé de la cire fondue, il y a quelqu'un qui nous dit, mais après tout, c'est l'équivalent d'une séance chez le dentiste à l'époque. Ou d'autres qui nous disent, mais c'était une prostituée. Alors après tout, qu'est-ce qu'elle, elle a bien l'habitude, elle était d'accord pour ça. Ou d'autres qui nous disent, mais elle était pauvre, il était riche. On peut faire songer d'ailleurs à des affaires récentes où on nous dit il faut bien que la pauvre fille qui a compris qu'elle avait affaire à un marquis très riche, elle obtienne des dommages et intérêts, donc elle charge la barque, mais ça s'est pas passé comme ça. Il s'agit simplement d'une sale fille qui profite d'un pauvre marquis et d'un seul coup, le bourreau devient la victime et la victime devient le bourreau. Et ça, c'est quelque chose qui se trouve même théorisé chez Bataille, qui nous explique que, et il y a une théorie après chez Deleuze qui nous dit que la langue de Sade n'est pas la langue d'un bourreau, c'est la langue d'une victime. Donc on se dit, le texte nous dirait qu'il n'a pas pu faire ça, puisque jamais les bourreaux n'avouent.
Pourquoi toujours essayer de lui donner le beau rôle, en quelque sorte ?
Parce que les intellectuels pensent que la vérité du monde n'est pas dans le monde, mais dans les livres qui disent le monde. L'important pour un intellectuel, c'est pas la réalité, c'est la bibliothèque. Et si Marx a dit, si Lénine a dit, si Sade a dit, si Sartre a dit, eh bien, ils disent vrai. Et si le réel dit le contraire de ce que dit Marx, eh bien, c'est le réel qui se trompe. Et donc, on est dans la dénégation. Le réel n'a pas eu lieu. Ou si le réel a eu lieu, il n'a pas eu lieu comme il faudrait l'entendre. C'est pas Sade qui a violé, puisqu'il est dans la sublimation. Freud nous a fait savoir que la sublimation, c'était l'origine de toute œuvre d'art. Eh bien, les 120 journées de Sodome, puisque c'est la sublimation de Sade, c'est bien la preuve que Sade n'est pas bourreau, c'est donc bien la preuve qu'il est victime. Il faut donc bien que la victime soit coupable.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand qui est toujours en compagnie de son invité du jour, il s'agit du philosophe Michel Onfray.
Sade, déconstruction d'un mythe, c'est donc le titre de cette conférence en deux parties que vous avez édité en CD. C'est très bien parce qu'on peut suivre tous vos cours d'une façon générale, hein, comme ça en CD, vous en avez édité un grand nombre, Michel Onfray. Alors, nous avons compris que la vie du marquis de Sade n'est pas tellement est assez différente de l'image qu'on a pu s'en faire. Nous avons bien compris que les intellectuels ont eu tendance à lui donner généralement le beau rôle et à essayer de tirer sa philosophie, parce qu'il n'est pas seulement auteur ou écrivain, comme on a voulu nous le dire depuis 15 ans, mais il est aussi philosophe sur le fond. Ils ont essayé de tirer cette philosophie vers un aspect positif. Est-ce qu'il est aussi génial, aussi visionnaire qu'on l'a dit ? Je sais déjà, en posant la question, à peu près quelle va être la réponse.
D'abord, vous avez raison d'insister sur ce fait que c'est un philosophe. Et pour moi, c'est surtout un philosophe. C'est-à-dire un écrivain, il a tous les droits, d'une certaine manière. Si on est dans la fiction pure, bon, après tout, c'est la fiction. Mais il y a une pensée du marquis de Sade. Il y a une théorie du monde, il y a une théorie matérialiste, il y a une théorie athée, il y a une théorie de la matière, il y a une théorie de la destinée, du déterminisme, de la fatalité. Et ça, c'est quand même un travail prescripteur. C'est quand même une vision du monde qui est censée prendre date sur l'avenir et qui est censée rompre avec le christianisme pour nous proposer un autre type d'humanité. Donc c'est plutôt là, moi, que je le trouve responsable. S'il était dans la fiction, et s'il n'était que dans la fiction, après tout, le droit à la fiction aurait permis à Sade d'être ce qu'il était, ou d'écrire du moins ce qu'il a écrit.
Mais il y a un travail philosophique. Il ne s'en tient pas là.
C'est vraiment un travail philosophique. D'ailleurs, il cite beaucoup les philosophes matérialistes de l'époque. Il cite beaucoup Diderot, Lamétrie, Helvétius, d'Holbach.
Quand vous dites qu'il cite, vous dites même dans la conférence qu'il les plagie, éventuellement.
Alors, je dis qu'à l'époque, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc c'est par la suite que les droits d'auteur seront théorisés. On nous dira, ça appartient à quelqu'un. Donc il y a une convention qui consiste à dire, deux points, ouvrez les guillemets, ça veut dire, ça n'est pas moi qui parle, mais je cite quelqu'un qui parle.
Est-ce que cette espèce de mélange permanent, pas permanent, mais d'ailleurs fréquent, d'idées philosophiques et de descriptions de scènes sexuelles, parfois très très poussées, est-ce que c'est ce qui a accrédité cette idée selon laquelle Sade aurait fait une sorte de classification complète de tous les comportements humains? Pour en revenir à Apollinaire, hein, c'est lui qui disait justement, on trouve dans son œuvre une classification rigoureusement scientifique de toutes les passions dans leur rapport avec l'instinct sexuel. Comme si Sade avait fait l'inventaire complet.
C'est ça. Alors ça, c'est aussi la lecture donc d'Apollinaire, mais surtout amplifié par André Breton et les surréalistes. C'est-à-dire le grand accélérateur d'Apollinaire, c'est quand même André Breton. Et donc André Breton, qui a lu et pillé évidemment la préface d'Apollinaire, lui remet en perspective, ou met du moins en perspective, l'œuvre de Sade et celle de Freud. Et il nous dit, mais regardez, Freud qui théorise les perversions, au sens large du terme, c'est-à-dire toutes les modalités possibles de la sexualité, eh bien, il fait quelque chose qui a déjà été fait par Sade deux siècles plus tôt, enfin au XVIIIe siècle. La chose est faite chez un Freud qui fait ça, lui, au début du XXe siècle. Donc Freud n'a rien inventé.
Un précurseur extraordinaire.
Voilà. Il aurait vu dans le fond de l'âme, il aurait décrit le mécanisme de l'inconscient, et il aurait vu effectivement qu'il y avait jouissance à faire souffrir, et d'une certaine manière, normalité. À cet état de fait, en disant, mais c'est ainsi. Après tout, il n'y a pas de raison de combattre cette nature-là, puisque la nature de l'homme, c'est qu'il y a jouissance dans la souffrance qu'on inflige. Et puis, il y a des gens qui sont faits pour être des bourreaux, des gens qui sont faits pour être des victimes. Et d'une certaine manière, le régime féodal avalisait cette séparation entre les seigneurs et les serfs.
Il aurait compris, nous dites-vous, si vous utilisez le conditionnel, c'est précisément que ça n'est pas votre avis.
Non, moi je pense que la liberté existe en part indéterminée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire nous sommes totalement déterminés ou nous sommes totalement libres, ce serait deux impasses, mais on éduque à la liberté, on peut créer la liberté. Et certains effectivement sont déterminés à ce point que la liberté ne peut pas exister chez eux, parce que je veux dire, quand vous avez une malformation congénitale, quand vous avez été abondamment violé dans vos jeunes années ou ce genre de choses, la part de la liberté elle est quand même infime. Mais le rôle de l'éducation, le rôle de la pédagogie, le rôle de l'enseignement, de l'instruction, c'est quand même d'éduquer à la liberté.
Mais en quoi peut-on dire que ça n'est pas précurseur, à partir du moment où il a bel et bien écrit tout cela, il en a bel et bien fait l'inventaire.
Parce que simplement, quand on joue ce jeu, il y a toujours un précurseur au précurseur. C'est-à-dire que si vous lisez La Rochefoucauld, par exemple, au XVIIe siècle, et tous les grands moralistes français, les Labruyère, ou les gens qui ont raconté le fonctionnement de l'âme humaine, vous savez déjà tout ça. Vous savez déjà qu'il y a de la jouissance à faire souffrir, et même si on veut remonter très en amont, il y a un vers de Lucrèce qui nous dit que quand on est au bord de la plage et qu'on voit au loin un bateau qui coule, eh bien, on est très heureux d'échapper à la souffrance et à la misère d'autrui. Donc, le spectacle de la douleur d'autrui peut nous réjouir. C'est une chose aussi vieille que le monde. Les moralistes l'ont dit en France au XVIIe siècle, mais les philosophes de l'Antiquité l'ont fait savoir aussi. Donc il ne fait jamais que reprendre une vieille chose déjà sue.
Merci beaucoup Michel Onfray. Sade, déconstruction d'un mythe, ce sont deux CD dans un coffret édité par Frémaux et Associés. Et puis alors pour préparer cette émission, j'ai lu ce qui vient de sortir, là, le dernier livre. Quand je dis je l'ai lu, j'en ai lu précisément la moitié pour l'instant. Et je me suis dit que ça m'a tellement emballé ce que vous avez écrit sur la musique, que j'avais très envie de faire aussi une émission sur la musique, mais ce sera peut-être le cas plus tard. Ça s'appelle « La raison des sortilèges », donc des entretiens avec Jean-Yves Clément sur la musique, et c'est publié chez Autrement. Merci beaucoup d'avoir littéralement bouleversé nos certitudes sur le divin Marquis. Entre parenthèses, pourquoi le divin Marquis ?
Apollinaire, encore une fois, qui nous fait savoir que c'est ce grand homme qui a tout prévu, tout vu, féministe, solaire, révolutionnaire. Il y avait une espèce de divinité à le présenter. Enfin, il fallait le présenter comme une divinité, alors que d'autres le présentaient comme l'incarnation de Satan et du diable.
Merci Michel Onfray.